Lire dans le noir.
L'évangile de Jimmy, par Didier Van Kovelaert.
Disque numéro 8, suite du chapitre 18.
J'ai traversé la ville. Je suis passé devant la maison où mes compagnons de voyage cuvaient leur décalage horaire. Il ne pleuvait plus. En remontant vers le centre, j'ai croisé la manifestation des personnels de santé qui réclamaient des moyens, du respect, des loisirs. Les couloirs de l'hôpital sont quasiment déserts. Je les sillonne d'étage en étage, regardant par les portes ouvertes, sans essayer de choisir, me contentant d'être là, disponible, d'attendre qu'une personne ressente ma présence, ou simplement remarque mes bretelles de corde et me demande un transport. « Jeune homme !» Je me retourne. Un vieux monsieur se tient au chambranle, dans un lainage trop grand, les yeux rouges et des lunettes pendant au bout d'un cordon. « Vous êtes d'en bas ?» Je souris, reviens sur mes pas, lui confirme que je viens du sanctuaire. De son bras, il me barre l'entrée de la chambre. J'aperçois une fillette endormie, reliée à une dizaine d'appareils. Elle est coiffée d'un bonnet en plastique, toute maigre, les yeux bridés comme une petite chinoise. Une bande dessinée est posée à cheval sur le drap bleu, à côté d'un tigre en peluche. 25 ans me remontent à la gorge d'un coup. Je me vois couché à sa place. Le grand-père m'entraîne vers le distributeur de boissons. Je lui demande comment elle s'appelle. Sarcome Dewing. Ça lui a pris au genou. Il aurait fallu amputer. Ses parents n'ont pas voulu. On l'a traité au cobalt, mais ça n'a rien fait. La paralysie s'y est mise et puis tout le reste. Elle est dans le coma depuis 15 jours. Les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir. Il ajoute en baissant la tête, « Ils ont besoin du lit. » Quel est son prénom ? Tian. Vous venez de loin ?
D'ici, Longvilliers sur la route de Pau. Ses parents sont détruits. Ils n'ont pas la foi et ils n'ont plus la force.
Vous voulez que je l'emmène à la grotte ?
Sa mère n'acceptera jamais. Déjà quand je l'ai inscrite au catéchisme. Et puis, elle n'est pas transportable. Regardez toutes ces machines.
J'entre dans la chambre, m'approche de l'enfant. Le Picsou magazine ouvert sur sa poitrine se soulève à chaque inspiration, dans le bruit de l'appareil à oxygène. « C'est pour que ça fasse moins triste, » murmure le vieux. « Je le laisse à la page où elle s'est arrêtée. Comme ça, je me dis que si elle se réveille... » Sa phrase s'achève dans une grimace de sanglots. Ses yeux restent secs. Il est au-delà du chagrin, des illusions, de l'espoir. Il a trop pleuré, trop donné, trop pris sur lui. Il regarde l'heure. « Faut que j'y retourne, j'ai la fournée de ce soir. J'ai dû me remettre au pétrin, mon fils n'a plus le courage. Vous pouvez rester un peu ? Que ça lui fasse une présence ?» J'acquiesce en fixant la table de chevet où prie une sainte vierge en plastique à moitié vide. Je vais la remplir à la source, chaque midi. Tous les quarts d'heure, je lui en mets un peu sur les lèvres. Si vous y pensez, à la demi. Ayez confiance. Il me regarde, un sourcil en l'air, étonné par ma fermeté. Il balbutie un merci, se penche pour embrasser sa petite fille entre les tuyaux. « Je reviens bientôt, ma chérie. Je te laisse avec le monsieur, il est très gentil. »«
Décrivez-vous, » poursuit-il à voix basse. « Je suis sûr qu'elle entend. »
Il ramasse son caban et s'en va. Je m'assieds sur la chaise encore chaude, prends la main libre, truffée de piqûres et d'hématomes. Et je demande à Notre-Dame de Lourdes l'autorisation d'entrer en communication avec Tian pour m'adresser à ses molécules messagères, leur transmettre l'ordre de mobilisation générale. Talita cum, talita cum. Je lui répète sans fin la formule de Jésus. Fillette, je te le dis, lève-toi. La nuit tombe et la main reste froide. Je ne ressens rien, aucune réponse. aucun échange, aucun signe de vie autre qu'un pouls très faible. J'essaie de retrouver cette électricité dans mon corps, cette exaltation que j'éprouvais quand j'ai soigné l'érable. Mais je suis si différent aujourd'hui. Tous les quarts d'heure, je mouille ses lèvres avec l'eau de la grotte. Je trace un signe de croix sur son front en murmurant « Notre Père ». Faites qu'elle sorte du coma, qu'elle survive, qu'elle guérisse, qu'elle grandisse, qu'elle redevienne une enfant comme les autres. Pourquoi n'ai-je plus aucun écho lorsque je prie? À quoi sert ce sang dans mes veines, cette préparation mentale qu'ils m'ont fait subir pendant des mois? J'en suis au même point qu'en juillet, beaucoup moins sûr de moi, c'est tout. En voulant me cultiver, ils ont semé le doute. En m'empêchant de travailler mes dons de guérisseur pour recentrer ma spiritualité, ils ont tué en moi la foi du charbonnier, celle qui a permis aux 7000 miraculés de Lourdes, reconnus ou bâtards, d'obtenir l'impossible. En m'apprenant tout ce que je devais savoir pour être à la hauteur de mes origines, ils ont remplacé mon instinct par des références. J'étais humble, ils m'ont rendu modeste. Ils m'ont cassé l'élan. Ils m'ont coupé les ailes pour éviter que je leur échappe. Ma foi est structurée aujourd'hui, comme il faut, présentable, mais elle ne déplacera plus de montagne. Pour que je sois homologué par le Vatican, ils m'ont formaté, aseptisé, mis au goût de l'époque. Relique vivante, décorative, récupérable et sans danger. Pour eux, le sang de Jésus qui circule dans mes veines n'est rien de plus que l'eau de la Vierge qui coule au robinet de la source. J'arrête tout. Ils n'ont qu'à me poser un drain, remplir des bouteilles et aller demander à Rome l'appellation contrôlée. Moi, je reste là, même si je n'y peux rien. Je reste là pour accompagner une enfant condamnée qui mourra sous mes yeux parce que je ne crois plus en moi. Je prends le Picsou magazine à la page où elle s'était arrêtée. Et je commence à lui lire les bulles, à lui expliquer les dessins. Et une sorte de paix revient dans mon cœur, tandis que Donald et ses neveux remplacent mes Notre Père. Un bip me fait sursauter. Un deuxième. Je regarde l'écran en face de moi, où la ligne horizontale trace des petits points, des pics de plus en plus rapprochés. Tiane remue les lèvres. Je laisse tomber la BD. Elle ouvre les yeux et les referme aussitôt en détournant la tête. Le plafonnier. Je me précipite pour l'éteindre. Quand je me retourne, elle me fixe. Je tombe à genoux devant elle, prends sa tête dans mes mains. « Tu es Jésus ?» Elle m'observe sans ciller, avec un sourire de Noël. Je soutiens son regard, incapable de répondre. Elle l'a senti dans son coma. Ou simplement je ressemble aux images du catéchisme. « Il y a du chaud dans mes jambes. J'étais fourmi partout. Ça fait mal !» Elle repousse soudain le drap et arrache les perfusions. Elle se lève. Pétrifiée, je la regarde trembler dans son pyjama jaune, tendre une jambe en avant, vaciller, lancer l'autre. Les patchs se détachent. Les fils qui la relient au moniteur tombent l'un après l'autre. Ses amarres larguées, elle marche comme une somnambule autour de la chambre, mes bras en cercle autour d'elle, prêts à la retenir si elle perd l'équilibre. « Ça tourne !» murmure-t-elle. Je la rattrape, la soulève dans mes bras, toute légère, toute molle, la recouche. « Ne bouge pas, Tiane. » Je me rue dans le couloir, cherchant des pièces dans mes poches, fonce vers le distributeur. Barres chocolatées, potage, biscuits, chips. J'enfonce toutes les touches. En panne. Je cours au bureau des infirmières. Personne. J'accélère jusqu'au bout du couloir où j'entends des voix. Un médecin fait sa tournée. Je lui crie d'aller voir Tiane. Il me demande qui c'est. Je lui indique la chambre. Une femme de service sort de l'ascenseur avec un chariot. Les cuisines, c'est où? Deuxième sous-sol, pourquoi? La cabine est redescendue. Je pousse les battants par feu, dévale l'escalier, tambourine à la porte fermée à clé. La défonce d'un coup d'épaule, attrape un plateau, vide un frigo et remonte avec 12 blancs de poulet, 20 carrés de fromage, un pack de mousse aux fruits. De quoi combler la fringale d'après miracle. Un signal d'alarme résonne quand j'arrive à l'étage. Des médecins accourent, Une infirmière me bouscule en poussant une machine à roulettes. Je lâche le plateau, me précipite à leur suite vers la chambre de Tiane. Elle est couchée dans la position où je l'ai laissée il y a 5 minutes. Les yeux ouverts. Son corps tressaille sous le choc électrique. Son expression reste la même. Nouvelle secousse. Le tracé sur l'écran demeure plat. Les médecins secouent la tête, rangent le défibrillateur. Je les écarte, saisis la petite fille par les épaules, la secoue. « C'est moi, Tiane. Tout va bien, tu es guérie. Reviens !» Il m'attrape, me tire en arrière. Une main ferme les yeux, une autre enlève les électrodes de l'encéphalogramme. « Vous êtes de la famille, monsieur ?»« Non, mais c'est moi qui... » Je m'interromps, regarde les visages qui m'observent, passant de la compassion à la méfiance. « C'est vous qui l'avez débranché ?» Hein ? Mais non, c'est elle, pour se lever. Un silence atterré me répond. Les infirmières reculent pour me fixer avec horreur. Elle était paralysée depuis 1 mois, monsieur. Je sais, mais... Je referme la bouche, détourne la tête, renonce à leur expliquer. Mes gardes du corps font irruption dans la pièce. Tandis que le ton monte de part et d'autre, je baisse les yeux vers la Vierge en plastique, renversée dans la bousculade, qui achève de se vider sur le sol.